Chapitre 9. Paris de pierre. À mesure que l'artiseur progresse en force et en connaissance, la séduction que l'art exerce sur lui croît en proportion. Le bon professeur se montrera prudent avec les candidats à l'art, strict avec les débutants et implacable avec ses élèves avancés. Trop nombreux sont les étudiants prometteurs que l'art lui-même a détruits. Les signes indiquant qu'un disciple se trouve en proie à la tentation comprennent l'inattention et l'irritabilité lors de ses occupations quotidiennes. Lorsqu'il artise, il emploie plus d'énergie que l'exercice n'en requiert, à cause du plaisir qu'il éprouve à la sentir le parcourir, et il passe plus de temps en état d'artisation qu'il n'est nécessaire pour accomplir la tâche demandée. L'instructeur doit remarquer ses étudiants et les corriger sans tarder. Mieux vaut un prompt châtiment que de vaines lamentations devant un élève qui émet des sons inarticulés en bavant, incapable de se déplacer par ses propres moyens, et finit par mourir de faim et de soif. Les devoirs d'un professeur d'art. Traduction de Boiscoudé. Les jours s'en venaient et s'en allaient sans plus de rémission que les marées qui montaient et descendaient sur les grèves de Bourg de Castelserre, et de façon tout aussi monotone. La fête de l'hiver approchait, annonciatrice à la fois de la nuit la plus longue de l'année et de la réduction progressive des suivantes. Jadis, j'aurais attendu cette occasion avec impatience, mais j'avais désormais trop de devoirs à accomplir et pas assez de temps pour les remplir correctement. Mes matinées commençaient par ma leçon avec le prince, et le reste du temps, je jouais mon rôle de domestique de Sire Doré. Il avait engagé deux valets pour s'occuper de sa garde-robe et de ses petits déjeuners, mais je restais obligé de l'accompagner lors de ses sorties à cheval et des réceptions auxquelles il participait. On s'était habitué à ma présence près de lui, et alors que sa cheville s'était apparemment tout à fait remise, je continuais à l'escorter, ce qui se révélait souvent utile. Parfois, Sire Doré orientait la conversation de façon à inciter les nobles à dire leurs sentiments sur les échanges avec les Outriliens ou la répartition des privilèges commerciaux. J'entendais exposer de nombreuses opinions lors d'entretiens à bâtons rompus, et je rapportais à Humbre les renseignements ainsi glanés. Sire Doré manifestait aussi de l'intérêt pour le vif, et posait de fréquentes questions sur cette étrange magie. La virulence des réponses de certains interlocuteurs me laissait pantois. Le sujet dévoilait une profonde acrimonie d'où toute logique était absente. Quand le fou demandait quel était le tort de cette magie, on accusait les vifiers de tout et de n'importe quoi, depuis s'accoupler avec des animaux pour acquérir la capacité de parler leur langage, jusqu'à jeter des malédictions sur les volailles et les troupeaux des voisins. On les disait capables de se changer en bêtes pour s'approcher de ceux ou celles qu'ils voulaient séduire, voire, pire encore, pour commettre des viols et des assassinats. Certains reprochaient avec colère à la reine son indulgence pour la magie des bêtes et affirmaient à Sire Doré qu'on vivait mieux dans les six duchés à l'époque où l'on pouvait se débarrasser facilement des vifiers. Ah, les soirs où je jouais le rôle du domestique du seigneur Doré, j'en apprenais plus que je ne le souhaitais sur l'intolérance de mes compatriotes envers leurs voisins. Durant les heures où il me donnait congé, je m'efforçais d'approfondir mes connaissances sur l'art à partir des manuscrits, mais plus souvent que je n'aime à l'avouer, je délaissais mes études pour descendre à Bourg de Castelserre, et pas afin d'y voir mon garçon. Parfois, je le croisais alors qu'il sortait de chez Gina pour aller retrouver Svania. Nos échanges se limitaient à un bref salut et à sa promesse creuse de rentrer tôt afin que nous puissions tenir une véritable conversation. Souvent, une expression mi-songeuse, mi-interrogative passait sur ses traits alors qu'il nous regardait, Gina et moi, et, souvent également, je me réjouissais qu'il ne revînt pas du travail aussitôt qu'il l'avait annoncé. J'étais en passe de m'installer dans une routine, sinon agréable, du moins prévisible, et par là même dangereuse. Malgré ma résolution de ne jamais relâcher ma vigilance, l'absence totale de manifestation d'épis endormait peu à peu mon attention, et je n'étais pas loin d'espérer que l'Audevin avait succombé à ses blessures. Ses partisans s'étaient peut-être égaillés et leurs menaces avaient disparu. En dépit de l'effroi que m'avait inspiré leur embuscade nocturne sur la route de Castelserre, j'avais du mal à rester constamment sur le qui-vive, alors que le seul assaut contre moi était un silence absolu et permanent. Le laisser-aller me guettait. Périodiquement, Humbre m'interrogeait sur les résultats de ma surveillance, mais je n'avais jamais rien à lui signaler. Autant que je pusse en juger, les fidèles du prince Pi nous avaient oubliés. J'espionnais régulièrement Civil Brisinga, sans trouver aucun élément pour justifier mes soupçons à son égard. Il se comportait comme n'importe quel noblio venu à la cour dans l'espoir d'améliorer son statut dans l'aristocratie. Je ne voyais jamais trace de son marguet dans les écuries. Il sortait souvent accompagné de son harnacheur, mais les rares fois où je le suivis, son seul but parut de donner de l'exercice à son cheval. Je fouillais sa chambre à plusieurs reprises, sans rien découvrir de plus intéressant qu'un billet de sa mère, l'assurant que tout allait pour le mieux, et qu'elle préférerait le voir demeurer à la cour, car, disait-elle, « nous sommes tous ravis que ton amitié avec le prince se porte si bien ». Et, de fait, cette amitié se portait à merveille, malgré mes prières insistantes auprès de Devoir, pour qu'il fasse preuve de prudence. Nous avions discuté de cette situation, Humbre et moi, et nous eussions aimé mettre un terme définitif à cette relation. Mais nous ignorions quelle serait la réaction du lignage. Nous n'avions plus reçu de communication directe d'aucun groupe de Viffier, lignage ou Pi. Ce silence ne laissait pas de nous inquiéter.
« Nous avons rempli notre part du marché »,
déclara un jour Humbre d'un ton bougon.
« Depuis qu'on nous a rendu le prince, plus un seul Viffier n'a été exécuté en serre. Peut-être n'avait-il pas d'autre objectif. Quant aux agressions des Pi contre leurs semblables, ma foi, nous ne pouvons pas en protéger ceux du lignage s'ils ne portent pas plainte. Et puis, elles semblent s'être apaisées. Pourtant, au fond de moi, je crains qu'il ne s'agisse du calme qui précède la tempête. Ouvre l'œil, mon garçon, ouvre l'œil. »
Humbre avait raison en ce qui concernait l'arrêt des exécutions publiques. La reine Kétrikène l'avait obtenue en usant d'un expédient très simple. Elle avait fait annoncer que personne ne pouvait plus être condamné à mort pour aucun crime sinon par décret royal, et qu'alors le supplice aurait lieu à Castelserre et nulle part ailleurs. Jusque-là, aucune ville n'avait jugé utile de demander une mise à mort. La paperasserie refroidit les volontés de vengeance, même les plus ardentes. Cependant, le temps passait sans nous apporter de nouvelles d'épis, mais, loin de me sentir soulagé, j'avais l'impression de faire l'objet d'une surveillance constante. Même si ces Viffiers rebelles cessaient de nous tourmenter, il m'était impossible d'oublier qu'un grand nombre de membres du lignage savaient le prince doué du vif. C'était un moyen de pression qu'on pouvait employer contre nous à tout instant. Je regardais les animaux que je ne connaissais pas d'un œil soupçonneux, et me réjouissais de savoir que Girofle patrouillait dans les murs de Castelserre. Un soir vint qui raviva ma vigilance. Descendu à Bourg de Castelserre, je frappai à la porte de Gina, et sa nièce m'informa que sa tante était sortie livrer plusieurs amulettes à une famille dont le troupeau de chèvres était infesté de galles. Tout en me demandant si des charmes étaient capables de remédier à une telle épidémie, je priai la jeune fille d'annoncer à Gina que j'étais passé. Quand je m'enquis de heure, elle prit une expression désapprobatrice et me dit que je le trouverais peut-être au port coincé, en compagnie de la corde à guet. Sa façon méprisante de désigner l'ami de mon fils me fit mal. Comme je me dirigeais vers la taverne dans l'air sec et froid de la nuit, je m'interrogeais sur l'attitude à adopter. L'engouement passionné de Heure pour Svania manquait de mesure et gênait son apprentissage. Mais pour ses motifs mêmes, il ferait sans doute la sourde oreille à mes conseils pour tempérer son ardeur. Toutefois, en pénétrant dans la salle pleine de vent-coulis au port coincé, je ne repérais ni Heure ni Svania. Alors que je me demandais où les chercher, la vue de Laurier assise à l'une des tables couvertes de taches détourna soudain mon attention. La grand-veneuse royale buvait seule, ce qui me fit froncer les sourcils. Je me rappelais parfaitement qu'Humbre lui avait assigné un garde du corps. Le garçon de l'établissement vint remplir sa chope, et à la façon brusque dont elle la leva, je compris que ce n'était pas la première de la soirée. Je me payai une bière, puis parcourus du regard les occupants de la salle. Je crus que trois personnages, à une table d'angle, s'étaient installés là pour surveiller la grand-veneuse. Mais alors que je m'efforçais de déterminer s'ils entretenaient de mauvaises intentions, un des hommes et la femme du groupe, manifestement en couple, se levèrent, saluèrent leurs compagnons et sortirent d'un air enjoué sans un regard en arrière. L'homme resté seul fit signe à une servante de s'approcher. Et, à ses mimiques, il me sembla comprendre qu'il tentait d'obtenir d'elle quelque chose qui le réchauffe mieux que la bière. Ses manières de rustre apaisèrent mes inquiétudes. Je traversai la salle bondée. Laurier sursauta quand je posais ma chope sur sa table, puis elle détourna les yeux, la mine accablée, pendant que je m'asseyais près d'elle sur le banc. Ce n'est pas le genre d'établissement où l'on s'attendrait à trouver la grand-veneuse de la reine en train de boire, fis-je à mi-voix, en promenant mon regard sur la taverne crasseuse pour souligner mon propos. Je demandai « Et où est passé votre apprenti ?» J'avais aperçu une fois ou deux l'agent d'Imbre. Par sa seule masse, il aurait fait hésiter tout assaillant potentiel. Son intellect m'inspirait moins de respect, surtout en cet instant. N'est-il pas un peu imprudent de visiter Bourg-de-Castelcerf sans lui ?
Imprudent ? Et vous alors ? Où est votre protecteur ? Vous courez bien plus de risques que moi.
Rétorqua-t-elle d'un ton acerbe. Elle avait les yeux rouges, mais j'ignorais si elle avait pleuré ou simplement trop bu. Je conservais un ton bas. Je suis peut-être plus habitué que vous à ce genre de danger.
Ça, c'est bien possible. Je ne vous connais pas assez pour savoir de quoi vous avez l'habitude, mais pour ma part, je n'ai pas du tout l'intention de m'y habituer, ni de laisser la peur confiner mon existence dans d'étroites limites.
Laurier paraissait épuisé, et j'observais des ridules au coin de sa bouche et de ses yeux que je n'avais pas remarquées jusque-là. Elle vivait dans la crainte, malgré ses airs bravaches. « Avez-vous reçu de nouvelles menaces ? » murmurai-je. Son sourire ne fut guère plus qu'un rictus.
« Pourquoi ? Une seule ne vous suffit pas ? »
« Que s'est-il passé ?» Elle secoua la tête et termina sa bière. Je fis signe au garçon de nous resservir. Au bout d'un moment, elle dit
« La première, personne d'autre que moi n'y aurait reconnu une menace. Ce n'était qu'une pousse de laurier attachée au loquet du box de mon cheval au bout d'un petit nœud coulant. »
Comme malgré elle, elle ajouta « Il y avait aussi une plume. » Coupé en quatre et brûlé. Une plume ? Il lui fallut un long moment avant de se décider à répondre.
Une personne qui m'est chère est liée à une oie.
Mon cœur cessa de battre un instant, puis repartit brutalement. Ils vous font comprendre ainsi qu'ils ont accès à l'intérieur du château, dis-je à mi-voix. Elle acquiesça de la tête tandis que le garçon, venu avec une grosse carafe, remplissait nos chopes. Je le payai et il s'éloigna. Laurier s'empara aussitôt de sa bière, dont une vaguelette déborda pour éclabousser sa main. Elle était un peu ivre. Vous ont-ils demandé quelque chose, ou bien voulaient-ils simplement vous montrer que vous n'étiez pas hors de leur portée ?
Ils m'ont demandé quelque chose de façon très claire.
Comment ?
Un petit parchemin laissé parmi mon matériel de pansage. Tout le monde savait dans les écuries que je tenais à m'occuper personnellement de casque blanc. Le billet disait que... si j'avais pour deux sous de bon sens, je devais laisser votre jument noire et la malta de cire dorée dans le pré le plus écarté pendant la nuit.
Une sensation de froid naquit au creux de mon ventre et s'étendit à tout mon corps. Vous n'avez pas obéi ?
Non, naturellement. J'ai donné à un palefrenier en qui j'ai confiance la tâche de les surveiller toutes les deux la nuit dernière.
Ah, c'est donc tout récent.
Oh oui.
Elle eut un hochement de tête vacillant. Et vous avez averti la reine ?
Non, je n'en ai parlé à personne.
Et pourquoi donc ? Comment voulez-vous que nous vous protégions si nous ignorons qu'on vous menace ?
Elle se tut un moment, puis répondit. Je refusais de laisser l'épice imaginer qu'il pouvait se servir de moi contre sa majesté. Je voulais, s'il devait m'éliminer, n'entraîner personne avec moi. Je dois me défendre seul, Tom, et non me cacher dans les jupes de la reine en la contaminant avec mes craintes.
C'était très courageux et complètement stupide, mais je gardais pour moi cette réflexion.
Eh bien,
qu'est-il arrivé ?
À vos chevaux, rien. Mais j'ai trouvé Casque Blanc morte dans son box ce matin.
Je restais sans voix. Casque Blanc était la jument de Laurier, un animal docile et franc du collier qui faisait la fierté de sa cavalière. Comme je ne disais rien, la jeune femme adressa un regard noir.
« Je sais ce que vous pensez. »
Elle parlait bas, dans un chuchotement plein d'un terrible sarcasme.
« Elle n'a pas le vif. Pour elle, cette jument n'était rien de plus qu'une bête, un moyen bien commode de se déplacer. »
« Mais vous vous trompez. »
« J'avais élevé Casque Blanc depuis qu'elle était toute petite, et c'était mon ami autant que ma monture. Nous n'avions pas besoin de partager nos pensées pour faire cœur commun. »
« Je ne pense rien de tel. » répondis-je dans un murmure. J'ai compté de nombreux animaux parmi mes amis, sans pour autant être unis à eux par le lien particulier du vif. Il suffit de vous avoir vus ensemble, Casque Blanc et vous, pour savoir que cette jument vous adorait. Je secouai la tête. Je suis horrifié de songer que vous avez protégé nos chevaux et que vous l'avez payé de la vie du vôtre. J'ignore si elle m'entendit. Regardant sans le voir le plateau éraflé de la table, elle dit
« Elle
est morte lentement. Ils lui ont fait avaler quelque chose, je ne sais comment, qui s'est coincé dans sa gorge et l'a étouffé en gonflant. Je pense, non, je suis sûr que c'était une façon de se moquer de moi, du fait que je suis issu d'une famille du lignage, mais sans en posséder la magie. Si j'avais eu le vif, j'aurais senti que ma jument allait mal. Je me serais précipité et j'aurais pu la sauver. Quand je l'ai découverte, elle était étendue sur le flanc, la bouche et les naseaux et le poitrail trempés de bave et de sang. Elle a longtemps agonisé, Tom, et je n'étais même pas là pour lui procurer une mort plus douce ni lui dire adieu. » Effaré, bouleversé à l'idée qu'une personne douée du vif puisse commettre un acte aussi monstrueux, je restais pétrifié, comme taillé dans un bloc de glace. Une telle malveillance dépassait mon imagination. Je me sentais souillé de partager ma magie avec des gens prêts à s'abaisser à des gestes aussi barbares. Toutes les horreurs qu'on racontait sur les vifiers s'en trouvaient confirmées. L'oreiller prit soudain une inspiration hoquetante et tourna vers moi des yeux qui ne me voyaient pas. Ses traits affichaient une expression éperdue sous l'effet d'un chagrin qu'elle refusait d'avouer. J'ouvris mon bras et elle enfouit son visage contre ma poitrine, tandis que je la serrais sur mon cœur. « Je regrette, » chuchotai-je à son oreille. « Je regrette affreusement, Laurier. » Elle ne pleurait pas, mais respirait à longs goulets entrecoupés de sanglots. Elle était au-delà des larmes et presque de la peur. Je songeais que, si l'épi la faisait basculer dans la fureur, il risquait de se retrouver face à un adversaire plus terrible qu'il ne l'avait souhaité, sauf s'il la tuait d'abord. Je me décalai sur le banc. Par habitude, je m'étais placé dos au mur. À présent, je voulais avoir une vue dégagée de la salle afin de vérifier si la jeune femme avait été suivie. C'est alors que j'aperçus Gina. Sans doute s'était-elle rendue à la taverne pour me retrouver après avoir parlé à sa nièce. Elle se tenait près de la porte qu'elle venait de franchir. Pendant une fraction de seconde, nos regards se croisèrent, puis elle vit la femme que je tenais dans mes bras et ses yeux s'agrandirent. Si elle s'était approchée, elle aurait peut-être compris que j'essayais seulement de consoler une amie, mais elle ne bougea pas, et il m'était impossible d'abandonner Laurier pour aller m'expliquer. Je lui adressai un regard implorant, mais le sien devint glacé, et me traversa soudain comme si elle ne m'avait pas vu ni reconnu. Elle fit demi-tour et ressortit d'une démarche raide qui ne me laissait rien ignorer de ses sentiments. Je sentis une colère impuissante m'envahir. Je ne faisais rien de mal, mais le maintien de Gina me disait que je l'avais profondément meurtrie. Cependant, même si j'en avais eu envie, je n'aurais pas pu laisser Laurier seul et à moitié saoul pour rattraper la sorcière des haies. Je m'asserrai donc dans cette situation inconfortable pendant que la grand-veneuse respirait profondément pour se ressaisir, puis se redresser brusquement en me repoussant presque. Je dégageai mon bras, elle s'essuya les yeux, puis s'empara de sa chope et la vida d'un trait. J'avais à peine touché à la mienne. « Je me suis conduite comme une sotte, » déclara-t-elle sans préambule. « Je suis venue à cause d'une rumeur qui fait de cette taverne un lieu de rendez-vous pour les vifiers, et j'espérais que l'un d'eux s'approcherait de moi et que je pourrais le tuer. Mais c'est sans doute moi qui me serais fait auxir. Je ne connais rien à cette façon de combattre. » Son expression me dérouta. Son regard était devenu froid et calculateur, alors qu'elle jugeait ses propres aptitudes à se battre. « Vous devriez laisser ce genre d'exercice à ceux qui... » Elle m'interrompit. « Il n'avait qu'à ne pas s'en prendre à mon cheval, » dit-elle d'un ton âpre, et je compris qu'elle ne voulait pas en entendre davantage sur la question. « Rentrons, » proposai-je. Elle acquiesça de la tête, la mine lasse, et nous sortîmes. Seule la lueur qui sourdait par les volets clos éclairait les rues glacées. Comme nous sortions de la ville et entamions la longue montée de la route enténébrée qui menait à Castelserre, je lui demandai, à ma propre surprise, Qu'allez-vous faire? Quitter le château?
Pour aller où? Dans ma famille? Afin de lui faire partager le danger que je cours? Non, certainement pas.
Elle inspira longuement, puis poussa un grand soupir qui forma un panache de vapeur dans le froid nocturne.
Mais vous n'avez pas tort. Je ne peux pas rester. Qui sait quelle sera leur prochaine action? Qu'y a-t-il de pire que tuer mon cheval?
Les possibilités ne manquaient pas, et elle le savait aussi bien que moi. Nous poursuivîmes notre chemin sans un mot de plus. Toutefois, Laurier n'était ni en colère ni renfermée. Je sentais les efforts qu'elle faisait pour y voir, malgré la lumière incertaine de la lune, et elle tournait la tête au moindre bruit. Ma vigilance n'était pas moindre. Une fois, je rompis le silence pour lui demander « Cette rumeur selon laquelle le port coincé sert de point de réunion pour les vifiers est-elle fondée ?» Elle haussa les épaules.
« On le dit, en tout cas. De nombreuses gargotes ont cette réputation. Bon pour les vifiers. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression ?»
Je ne la connaissais pas, mais j'engrangeais ce détail dans ma mémoire. Peut-être la médisance cachait-elle un germe de vérité. Existait-il à Bourg de Castelserre une taverne qui servait de lieu de ralliement aux vifiers? Qui pourrait me le confirmer? Et que pourrais-je y apprendre? Nous venions de franchir les portes de l'enceinte quand je vis le prétendu apprenti de Laurier se hâter à notre rencontre. Son expression inquiète se transforma en rictus hostile lorsqu'il m'aperçut. Laurier soupira et lâcha mon bras. Elle se dirigea vers l'homme d'une démarche vacillante, et c'est tout juste s'il ne fondit pas sur elle pour l'empêcher de trébucher. Malgré les propos sans doute apaisants qu'elle lui tint sur moi, il me jeta un regard noir et lourd de soupçons avant de ramener la jeune femme à ses appartements. Pour ma part, avant de regagner ma propre chambre, je fis sans bruit un tour rapide des écuries. Manoir m'accueillit par ses manifestations habituelles de totale indifférence qui me réchauffaient toujours le cœur. Mais je ne lui en voulus pas. Je n'avais guère de temps à lui consacrer ces derniers jours. À la vérité, elle n'était pour moi qu'un animal. Je la montais quand Sire Doré sortait avec Malta, mais hormis cela, j'en remettais le soin aux employés des écuries. Je jugeais tout à coup mon attitude envers elle bien insensible, mais je le savais, il m'était impossible de m'occuper d'elle davantage. Je me demandais quel but poursuivait l'épi. Si on avait parqué nos chevaux dans l'enclos le plus écarté, les aurait-on volés? Ou pire. Le vif aux aguets, je longeais les box en examinant attentivement les palefreniers et autres garçons d'écurie que je croisais. Je ne vis personne dont les traits me fussent familiers, et l'eau de vin ne se dissimulait pas sous l'escalier ni derrière les portes. Pourtant, ce n'est qu'une fois dans les appartements d'Imbre que je sentis l'attention me quitter. Le vieil assassin ne s'y trouvait pas, mais je rédigeais un compte-rendu détaillé des propos de Laurier que je laissais à son intention. Nous en discutâmes le lendemain sans parvenir à aucune conclusion véritable. Il réprimanderait le garde du corps d'avoir laissé sa protégée lui fausser compagnie, mais il ne voyait pas comment assurer davantage la sécurité de la grand-veneuse sans restreindre encore sa liberté de mouvement.
« Et elle refuserait. Elle supporte déjà très mal que j'ai placé un de mes hommes auprès d'elle. Pourtant, que puis-je faire de plus, Fitz? Elle nous est précieuse, car c'est peut-être elle qui obligera les pies à sortir de leur cachette. »
« Mais à quel prix ? » demandai-je d'un ton sec.
« Le moins élevé possible, »
répondit-il, la mine sombre.
Quel besoin pouvait-il donc avoir de ma jument et de celle de Sire Doré ?
Imbre leva les sourcils.
« Tu connais mieux que moi la magie du vif. Est-il concevable qu'ils aient voulu les ensorceler pour qu'elles vous jettent à terre et vous piétinent, ou bien pour écouter vos conversations ? » ?»«
Le vif n'opère pas ainsi. » dis-je avec lassitude. Pourquoi nos montures? Pourquoi pas celles du prince? C'est à croire que c'est nous, le fou et moi, qui sommes leur cible, et non devoir.
Un brûlèr mal à l'aise, puis il déclara comme à contre-cœur.
La prudence conseillerait peut-être de suivre cette idée pour voir où elle aboutit.
Je regardais le vieil assassin en me demandant ce qu'il cherchait à me dire à sa façon oblique. Il pinça les lèvres et secoua la tête comme s'il regrettait ses propos. Peu après, il trouva un prétexte pour me quitter. Je restai assis près du feu, perdu dans mes réflexions. Les jours suivants, la gêne m'empêcha de retourner chez Gina. C'était ridicule, je m'en rendais compte,
et pourtant c'était ainsi. Je ne pensais pas lui devoir d'explication, mais j'avais la certitude qu'elle en attendrait une. Or, aucun mensonge commode ne me venait pour justifier la présence de Laurier entre mes bras à la taverne du Port Coincé. Je n'avais nulle envie de parler de la grand-veneuse à Gina, car cela nous mènerait trop près de sujets dangereux. Par conséquent, j'évitais purement et simplement la sorcière des haies. Lorsqu'il m'arrivait de descendre à Bourg-de-Castelserre, j'allais voir Heure sur son lieu de travail. Nos échanges étaient brefs et me laissaient sur ma faim. Il se savait observé par les autres apprentis, et il me parlait comme s'il voulait afficher clairement devant eux le mécontentement que lui inspirait son maître. Il s'exaspérait aussi de voir contrarier la cour qu'il faisait à Svania, dont le père s'ingéniait à l'empêcher de voir sa fille et refusait de lui adresser la parole dans la rue. Je sentais qu'une partie de sa rancœur était dirigée contre moi. Il paraissait considérer que je le négligeais, alors que quand je lui proposais de passer un moment le soir avec moi, il préférait profiter de ce temps en compagnie de Svania. Je me promettais sans cesse de m'occuper davantage de lui et de faire amende honorable auprès de Gina, mais les jours s'écoulaient sans que je trouve un seul instant pour mettre de l'ordre dans ma vie. Au château de Castelserre, les festivités et les négociations qui entouraient les fiançailles du prince continuaient. La fête de l'hiver vint puis passa, plus splendide que je ne l'avais jamais vue, et nos hôtes outriliens y prirent grand plaisir. À sa suite, les journées furent occupées par d'intenses discussions commerciales, et les nuits par les divertissements de l'aristocratie. Marionnettistes, ménestrels, jongleurs et autres artistes des six duchés firent d'excellentes affaires. Les outriliens se fondirent dans le décor habituel des salles de Castelserre, et certains nouèrent de véritables amitiés, tant avec les nobles qui résidaient au château, qu'avec les marchands et négociants venus du bourg de Castelserre. Dans la ville, la tradition du commerce avec les îles d'outre-mer commença de refleurir. Des vaisseaux entrèrent dans le port et entreprirent de proposer leur cargaison à la vente. Les échanges épistolaires entre les deux pays reprirent aussi, et on cessa de considérer comme socialement inacceptable de se reconnaître un ou deux cousins outriliens. La stratégie de Ketriken semblait porter ses fruits. Les longues soirées de distraction de la cour me laissaient voir un Castelserre que je n'avais jamais soupçonné. En tant que domestique, je jouissais d'une invisibilité semblable à celle de l'enfant anonyme que j'étais autrefois. La différence tenait à ce que, valet de cire dorée, j'accompagnais mon maître aux fêtes les plus distinguées, où notre aristocratie s'adonnait au jeu, au plaisir du palais et à la danse. Là, je la vis dans ses plus beaux atours et ses conduites les plus basses. Ivre de vin ou alangui de fumée, affolée de concupiscence ou éperdue de dettes de jeu, prête à tout pour retrouver ses mises. S'il m'était arrivé de croire nos seigneurs et nos dames constitués d'une étoffe plus raffinée que les pêcheurs et les tailleurs qui s'entassaient dans les tavernes de Castelserre, je perdis mes dernières illusions cet hiver-là. Jeune, vieille, célibataire ou mariée, les femmes tombaient sous le charme de Cire Dorée et papillonnaient autour de lui, tout comme de jeunes gens désireux de se parer du titre d'ami du seigneur jamaïlien. Je m'amusais quelque peu d'observer que même Astérie et Sire Pêcheur ne parvenaient pas à résister à l'attrait du fou. Ils se joignaient souvent à lui, à la table de jeu, et ils entrèrent même dans ses appartements pour une dégustation d'eau-de-vie fine de jamaïlia en compagnie d'autres invités. J'avais du mal à demeurer dans mon rôle de domestique impavide en présence de la ménestrelle. Son époux lui manifestait fréquemment son affection en l'attirant contre lui et en lui volant des baisers, à la façon d'un adolescent. Elle lui reprochait alors en riant de ne pas savoir se tenir en public, tout en s'arrangeant de temps en temps pour me lancer un coup d'œil, comme pour s'assurer que j'avais bien remarqué avec quelle ardeur Sire Pêcheur courtisait encore sa femme. En certaines occasions, j'éprouvais les plus grandes difficultés à conserver un visage impassible. Ce n'était pas que mon corps brûlât encore de passion pour elle, non. Mon cœur se serrait en ces moments-là parce qu'elle étalait son bonheur dans le seul but de me rappeler la solitude de mon existence. Serviteur muet, je me tenais au milieu des raffinements de la cour, de ses fêtes et de ses divertissements sophistiqués, et j'avais le droit d'observer ses plaisirs, mais pas d'y participer. Le long crépuscule de l'hiver passa ainsi lentement. Le tourbillon étourdissant et constant de la vie de cour finit par épuiser le prince autant que moi-même. Un matin, de bonne heure, Nous arrivâmes à la tour sans la moindre envie d'étudier ni de lever le petit doigt. Le prince était resté éveillé tard la nuit précédente à jouer avec Civil et les autres jeunes nobles qui résidaient à Castelserre. J'avais eu le bon sens de me coucher plus tôt, et j'avais profité de plusieurs heures d'un sommeil réparateur avant qu'Orti ne s'insinue dans mes rêves. J'étais en train d'attraper du poisson en enfonçant délicatement mes mains dans le courant avant de projeter brusquement sur la rive le poisson qui rôdait dans l'onde. C'était un songe agréable, réconfortant. Invisible, mais perceptible, Œil de Nuit s'y trouvait avec moi. Tout à coup, j'avais senti sous mes doigts une poignée de porte au fond de l'eau froide. J'avais plongé ma tête sous la surface pour l'examiner, et comme je la détaillais dans la lumière glauque, elle s'était ouverte et m'avait aspiré. Je m'étais retrouvé debout, trempé, dégoulinant, dans une petite chambre, au plafond en pente. J'avais compris que j'étais apparu au dernier étage d'une maison. Le silence régnait autour de moi, et le seul éclairage provenait d'une bougie dégoûtante de cire. Curieux de savoir comment j'étais arrivé là, je m'étais retourné vers la porte. Une jeune fille se tenait le dos fermement appuyé contre le battant, les bras écartés pour me barrer le passage. Elle portait une longue chemise de nuit, en coton, et la longue natte de ses cheveux sombres tombait sur son épaule. Je l'avais dévisagée, ahurie.
« Puisque tu m'interdis d'entrer dans tes rêves, je te prends au piège dans le mien »,
avait-elle déclaré d'un ton triomphant. J'avais observé un mutisme et une immobilité absolue. Au fond de moi, je sentais que, si je lui donnais quelque chose de moi, un mot, un geste, un regard, je ne ferais que renforcer son emprise sur moi. J'avais détourné les yeux de son visage, car en la reconnaissant, je pénétrais plus profondément dans son rêve, et les avais baissés sur mes mains. Avec un étrange soulagement, j'avais constaté que ce n'était pas les miennes. Elle s'était emparée de moi telle qu'elle m'imaginait, non telle que j'étais réellement. Mes doigts étaient courts et carrés, mes paumes et la face interne de mes phalanges noires et rudes, comme les coussinets d'un loup, et un pelage sombre et raide couvrait le dessus de mes mains et de mes poignets. Ce n'est pas moi. J'avais prononcé cette phrase tout haut. On eût dit un grondement bizarre. J'avais voulu toucher mon visage, et je l'avais découvert remplacé par un mufle.
« Si, c'est toi !»
avait-elle affirmé. Mais déjà je m'effaçais. Je quittais l'enveloppe dans laquelle elle avait pensé me retenir prisonnier. Le piège n'avait pas la forme qui convenait pour me prendre. Orti avait bondi vers moi pour me saisir le poignet, mais elle n'avait plus entre les doigts qu'une pelisse de loup vide.
« La prochaine fois, je t'attraperai »
s'était-elle exclamée furieuse. « Non, Orti, tu ne m'attraperas pas. » Elle s'était pétrifiée en m'entendant prononcer son nom. Alors qu'elle s'efforçait de se reprendre pour me demander comment je le connaissais, j'avais disparu de son rêve et m'étais réveillé. Je m'étais retourné sur mon lit dur, puis j'avais ouvert les yeux dans les ténèbres désormais familières de ma chambre de serviteur. « Non, Orti, tu ne m'attraperas pas », avais-je répété tout haut comme pour m'en convaincre. Mais je n'avais plus fermé l'œil de la nuit. Et voilà comment nous nous retrouvions, Devoir et moi, assis face à face à nous regarder d'un œil vitreux, dans la tour d'art l'aube suivante, aube qui n'en était une qu'en vertu de l'heure, car le ciel d'hiver était d'un noir d'encre, et les chandelles qui brûlaient sur la table ne parvenaient pas à dissiper l'obscurité tapie dans les angles de la pièce. J'avais allumé un feu dans l'âtre, mais le fond de l'air restait frisquet. « Y a-t-il pire qu'avoir froid et sommeil en même temps ?» fis-je de façon toute rhétorique. Devoir soupira et j'eus le sentiment qu'il n'avait même pas entendu ma question. Celle qu'il posa fit naître un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. « Avez-vous déjà employé l'art pour obliger quelqu'un à oublier un souvenir ?»« Non, je n'ai jamais rien fait de tel. » Puis, redoutant sa réponse, je demandai. « Pourquoi cela ?» Il poussa un nouveau soupir, plus profond encore. « Parce que, si l'on pouvait s'en servir ainsi, cela me simplifierait beaucoup la vie. Je crois hélas avoir dit quelque chose hier soir à quelqu'un, sans aucune intention de... Enfin, ce n'était même pas dans ce sens-là que je l'entendais, mais elle... » Il finit par se taire, l'air accablé. « Et si vous commenciez par le commencement » suggérai-je. Il prit une longue inspiration qu'il relâcha brutalement, irrité contre lui-même.
« Civil et moi jouions au jeu des cailloux et... »
Je l'interrompis. « Au jeu des cailloux ?»
Il soupira encore une fois. « Je me suis fabriqué un damier en tissu et des pions. Je pensais m'améliorer en jouant contre d'autres adversaires en plus de vous. »
Je ravalai l'objection qui m'était venue. Quel motif lui interdisait de faire connaître ce jeu à ses amis ? Aucun à première vue. Pourtant, cela me contrariait. J'avais fait une ou deux parties avec Civil, il les avait perdues, comme il se devait, et comme il s'y attendait lui-même, car nul ne brille à un jeu qu'il vient d'apprendre, mais il a déclaré en avoir assez pour le moment, car ce n'était pas le genre de distraction qu'il appréciait le plus. Et il a quitté la table pour aller bavarder avec quelqu'un d'autre près de la cheminée. Dame Vanta nous observait depuis quelque temps et nous avait dit vouloir apprendre à jouer, mais comme nous étions en pleine partie à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour elle. Toutefois, elle était demeurée près de notre table à nous regarder, et au départ de Civil, au lieu de le suivre comme je le pensais, car elle paraissait lui porter une grande attention, elle s'est assise à sa place. J'étais en train de ranger le damier et les pions, mais elle a pris mon poignet et m'a demandé avec fermeté de redéployer le jeu, car c'était son tour.
Dame Vanta ?
Ah, vous ne devez pas la connaître. Elle a, voyons, dans les 17 ans, et elle est très sympathique. Son vrai prénom est Avantage, mais elle le trouve trop long. Elle s'entend avec tout le monde, elle raconte des histoires très amusantes et, ma foi, je ne sais pas, je me sens plus à l'aise avec elle qu'en compagnie de la plupart des filles. Les autres donnent l'impression de ne jamais oublier qu'elles sont des filles. Elle non, elle se comporte normalement. C'est la nièce de Sir Shemshai de Orfond. Il haussa les épaules en conclusion de sa présentation. Bref, elle voulait jouer et... quand je l'ai prévenue qu'elle allait sans doute perdre les premières parties, elle a répondu que cela lui était égal, et même que si j'acceptais d'en jouer 5 d'affilée, elle pariait qu'elle en gagnerait au moins 2. Une de ses amies nous avait entendus et elle s'est approchée pour s'enquérir de la mise. Alors Dame Vanta a déclaré qu'en cas de victoire, elle désirait sortir à cheval en ma compagnie le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, et que si elle perdait, elle me laissait le choix du gage. Et elle a dit cela... d'une façon qui me mettait au défi de lui imposer un enjeu, comment dire, frisant l'inconvenance ou...
Comme un baiser, fis-je l'estomac noué, ou un gage de ce genre?
Jamais je n'irai jusque-là, vous le savez bien.
Eh bien, jusqu'où êtes-vous allé? Imbre était-il au courant de ce pari? Et la reine Kétriken? À quelle heure de la nuit cette anecdote s'était-elle déroulée, et quelle quantité de vin les protagonistes avaient-ils ingurgité?
J'ai décidé que si elle perdait, elle devrait nous apporter notre petit déjeuner à Civil et à moi, dans la galerie des glaces, et nous le servir elle-même, en reconnaissance du bien fondé de l'affirmation selon laquelle une fille est incapable d'apprendre à jouer aux cailloux.
Quoi? Mais devoir, c'est une femme qui m'a enseigné ce jeu.
Ah!
Il eut la grâce de prendre l'air gêné.
Je l'ignorais. Comme vous aviez dit que cela faisait partie de la formation à l'art, je pensais que vous l'aviez appris auprès de mon père. Enfin, peu importe. Mais attendez. Une femme a donc participé à votre apprentissage? Je croyais que mon père avait été votre seul maître.
Je maudis ma négligence. Oubliez cela, ordonnai-je d'un ton sec. Achevez votre histoire. Il eut un toussotement entendu et me jeta un regard qui me promettait de revenir plus tard sur le sujet.
« Très bien. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'avais dit à Eliania, mais Civil et... »
« Dis quoi, Eliania ?» L'angoisse m'étreignait le cœur.
« Que ce n'était pas un jeu fait pour l'esprit féminin. C'est Civil qui le lui avait affirmé. Nous jouions ensemble, lui et moi, et elle s'est approchée en déclarant qu'elle aimerait apprendre. Mais, voyez-vous, Civil n'apprécie guère Eliania. D'après lui, elle est comme Sidèle. » La fille qu'il a insultée est bafouée. Elle cherche seulement un bon parti. Donc il déteste qu'elle reste près de nous quand nous parlons et que nous nous livrons à des jeux de hasard.
Il baissa le nez devant mon froncement de sourcils et ajouta d'un ton ronchon.
C'est vrai, elle n'est pas comme Dame Vanta. Elle n'oublie jamais qu'elle est une fille. Comment on doit se tenir en société, ni quelle politesse échanger avec les uns et les autres. Son éducation est si parfaite qu'elle en devient mauvaise. Vous comprenez ce que je veux dire?
J'entends pour ma part qu'elle se conduit comme une étrangère à la cour qui s'applique à observer nos coutumes. Mais, poursuivez.
Eh bien, Civil était au courant de son habitude de faire preuve de manière absolument irréprochable. Il en a conclu que le plus rapide pour se débarrasser d'elle consistait à prétendre que, dans les six duchés, on considérait le jeu des cailloux comme une distraction masculine. C'est ce qu'il lui a expliqué d'une façon apparemment très gentille, mais en même temps affreusement drôle, d'un humour cruel, parce qu'Eliania ne connaît pas assez bien notre langue ni notre culture pour se rendre compte à quel point le prétexte était grotesque. Ne me regardez pas ainsi, Tom. Ce n'est pas moi qui lui ai joué ce tour. Et puis, une fois engagé, Civil n'avait aucun moyen de battre en retraite sans aggraver la situation. Bref, il lui a dit que le jeu des cailloux n'était pas pour les filles, et Eliania a quitté notre table pour rejoindre son oncle. Il jouait aux osselets avec son père, à une table à l'autre bout de la salle. Elle ne se trouvait donc pas dans les parages quand Dame Vanta m'a interpellé. J'ai disposé les pions, et nous avons commencé le jeu. Les deux premières parties se sont achevées comme je l'avais prévu. À la troisième, j'ai commis une erreur grossière, et c'est mon adversaire qui a gagné. J'ai gagné la quatrième, et puis, au milieu de la dernière, et c'est à mon honneur, je pense, j'ai songé qu'il pourrait paraître inconvenant, lorsqu'elle aurait perdu, qu'elle nous serve le petit déjeuner à Civil et moi. Sir Shemshai risquait de se sentir insulté, de voir sa nièce obligée de jouer les soubrettes, même si cela ne dérangeait pas Eliania ni ma mère. J'ai donc jugé qu'il valait mieux la laisser remporter la dernière manche. Je devrais me promener à cheval avec elle, mais je pourrais toujours m'arranger pour me faire accompagner par d'autres, voire par Eliania. « Vous lui avez donc abandonné la victoire, » dis-je avec un mauvais pressentiment. « Oui. » Or, Dame Vanta avait manifesté à grand bruit son exultation quand elle avait gagné la troisième partie, en éclatant de rire, en poussant des cris de joie et en annonçant à la cantonade qu'elle m'avait battu. Nous étions donc le point de mire d'un groupe qui s'était formé autour de nous. Quand elle a remporté la dernière manche, elle s'est mise à chanter victoire et une de ses amies m'a dit « Ma foi, monseigneur, il semble que vous vous soyez trompé lourdement en affirmant qu'aucune fille ne pouvait apprendre ce jeu. » Alors j'ai répondu « Je voulais seulement faire de l'esprit, Tom, je vous l'assure. » Et non offenser qui que ce fût. J'ai répondu... Il hésita. « Eh bien, qu'avez-vous donc répondu ? » demandai-je sèchement. « Simplement qu'aucune fille ne pouvait l'apprendre, mais que c'était peut-être à la portée d'une jolie femme. » Tout le monde a éclaté de rire et levé son verre pour saluer cette déclaration. Nous avons vidé nos coupes, puis chacun a reposé la sienne, et c'est alors seulement que j'ai remarqué Eliania, à la périphérie du groupe. Elle n'avait pas bu avec nous. Et elle ne disait pas un mot. Elle m'a regardé droit dans les yeux, le visage impassible, puis elle s'est détournée. J'ignore ce qu'elle a murmuré à son oncle, mais il s'est levé aussitôt et a laissé la victoire de la partie en cours à son père, alors qu'une somme rondelette était en jeu. Ils ont quitté ensemble la salle et regagné leurs appartements. Je m'adossais dans mon fauteuil et m'efforçais d'obtenir une vision claire de la situation. Puis je secouais la tête et demandai. « Votre mère est-elle au courant de cette affaire ?» Il soupira. « Je ne pense pas. Elle s'est retirée tôt hier soir. »« Et Imbre ?» Ses traits se crispèrent. Il redoutait d'entendre l'opinion du conseiller sur son inconséquence. « Non. Lui non plus ne s'est pas attardé. Je lui trouve l'air là et distrait ces temps-ci. » Je ne le savais que trop bien. Je secouais la tête. « Ce n'est pas l'art qui résoudra ce problème, mon garçon. Mieux vaut le soumettre sans attendre aux spécialistes de la diplomatie et suivre leurs recommandations. »« Que va-t-on exiger de moi, à votre avis ?» L'angoisse perçait dans sa voix. « Je n'en sais rien. À mon sens, présenter des excuses sans détour serait une erreur. Vous confirmeriez que vous avez insulté Eliania. Mais non, je ne sais pas devoir. Je n'ai jamais été doué pour la diplomatie. » Mais Imbre aura peut-être une idée. Il vous conseillera peut-être de porter une attention particulière à l'anarchesca pour lui assurer que vous la jugez à la fois jolie et femme. Mais ce n'est pas vrai! Je négligeais sa protestation acerbe. Et surtout, ne sortez pas seul en promenade avec Dame Vanta. Je crois même qu'il serait sage d'éviter complètement sa compagnie. Il frappa la table du plat des mains furieux. Je ne peux pas revenir sur l'enjeu du pari. Alors faites-la votre promenade. Répliquai-je sèchement. « Mais à votre place, je m'arrangerai pour qu'Eliania chevauche près de moi et que ma conversation ne s'adresse qu'à elle. Peut-être Civil pourrait-il vous aider, s'il est si bon ami qu'il l'affirme. Demandez-lui de détourner l'attention de Dame Vanta afin de donner l'impression que c'est lui qui l'accompagne. Et si je n'ai pas envie qu'on détourne son attention de moi ?»
voilà qu'il se montrait contrariant et entêté, aussi agaçant que Heure la dernière fois que je l'avais vu. Je le regardais sans rien dire, droit dans les yeux, jusqu'à ce qu'il détourne le visage. « Vous devriez vous en occuper tout de suite, » dis-je.
« Vous voulez bien venir avec moi ?»
Il parlait très bas, parlait à Mère et à Imbre. « C'est impossible, vous le savez bien. Et même dans le cas contraire, il vaudrait mieux que vous vous en chargiez seul, à mon avis. » Il s'éclaircit la gorge.
« Alors, tout à l'heure, pour la promenade, vous acceptez de m'accompagner ?»
J'hésitais, puis proposais. « Invitez Sire Doré. Voyez-y la promesse, non que je serai présent, mais que j'y réfléchirai.
Et que vous suivrez les recommandations d'Imbre ?»«
Probablement. Il a toujours été plus doué que moi pour la subtilité. »«
La subtilité ? Pouah ! J'en ai plus qu'assez de la subtilité, Tom. C'est pour ça que je préfère la compagnie de Dame Vanta. Elle, au moins, elle est naturelle. »«
Je comprends, » répondis-je, tout en réservant mon avis sur la question. Je m'interrogeais. Dame Vanta était-elle une simple jeune femme qui avait entrepris la conquête d'un prince, ou bien un pion qu'on manipulait dans l'ombre pour déstabiliser le jeu de Ketriken ? Bah, nous ne tarderions sans doute pas à l'apprendre.
Le prince sortit en fermant la porte derrière lui. Je me levai sans bruit et parcourus la pièce du regard, tout en écoutant ses pas décroître dans les marches. J'entendis le salut du garde en bas de l'escalier. Après un dernier coup d'œil autour de moi, je soufflai la bougie sur la table et sortis à mon tour avec une autre chandelle pour éclairer mon chemin. Je décidai de faire un crochet par la tour d'Imbre avant de me rendre dans ma chambre. Je poussai la porte secrète et m'arrêtai net, surpris de trouver mon vieux maître et Lourd ensemble dans la salle. À l'évidence, Imbre m'attendait. Lourd paraissait maussade et ses paupières plus que mi-closes lui donnaient l'air encore plus endormi que d'habitude.
« Bonjour, » fis-je.
En effet, la journée s'annonce bonne, répondit Imbre.
Ses yeux brillaient, et il arborait une mine réjouie. Je pensais qu'il allait m'annoncer quelques nouvelles plaisantes, mais il déclara.
J'ai prié Lourd de se présenter tôt ce matin, afin que nous puissions parler tous les trois.
Hein ? Je ne voyais que dire d'autre. Ce n'était pas le moment de reprocher à Imbre de ne pas m'avoir prévenu, et je ne voulais pas lui faire part de mon sentiment en présence de Lourd. Je gardais le souvenir cuisant d'avoir jadis sous-estimé l'intelligence d'une petite fille et de m'être exprimé trop librement devant elle. Certes, Romarin était la créature de Royal, tandis que Lourd n'espionnait sans doute pour le compte de personne, mais je préférais me montrer prudent. Ce qu'il ignorait, il ne pouvait pas le répéter.
« Comment va le prince ce matin ?» me demanda Imbre tout à coup.
« Bien, » répondis-je avec circonspection. « Mais il faudra qu'il vous voie pour une question assez pressante. Il serait bon que vous restiez là où on peut vous trouver facilement. »«
Prince triste !»
intervint Lourd d'un ton plaintif. Il secoua sa grosse tête d'un air compatissant. Mon cœur manqua un battement, mais je résolus de mettre l'idiot à l'épreuve. « Non, Lourd, le prince n'est pas triste. Il est joyeux. Il est allé prendre un bon petit déjeuner avec tous ses amis. »
Lourd me regarda, l'œil noir. Un instant, sa langue sortit de sa bouche davantage que d'habitude, et sa lèvre inférieure pendit mollement. Puis il rétorqua
« Non, le prince est une chanson triste aujourd'hui. Idiote de fille, une chanson triste. La 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 li lo lou lou. »
Le simple d'esprit fredonna un petit air funèbre. Je me tournai vers Imbre. Il prêtait la plus grande attention à notre échange. Les yeux fixés sur moi, il demanda à Lourd
« Et comment va Orti aujourd'hui ?»
Je demeurai impassible et m'efforçai de respirer normalement, mais sans grand succès.
« Orti est inquiète. L'homme du rêve ne veut plus lui parler. Et son père et son frère se disputent. Gna gna gna, sa tête lui fait mal et sa chanson est triste. Na 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 na. »
Sa mélodie pour la tristesse d'Orti était différente de la précédente, empreinte de tension et de malaise. Brusquement, Lourd s'interrompit à mi-note, me dévisagea et eut un sourire à la fois moqueur et triomphant.
« Puis le chien n'aime pas ça !»«
Non, en effet, » répondis-je sans embâge. Je croisai les bras et reportai mon regard furieux de lourd sur Imbre.
« Ce n'est pas juste !»
dis-je, avant de crisper les mâchoires en prenant conscience de l'infantilisme de mon expression.
« C'est exact !»
fit Imbre d'un air un peu narquois.
« Lourd, tu peux t'en aller si tu veux. Je crois que tu as terminé ton travail ici. »
L'intéressé eut une moue pensive. « Apporter le bois, apporter l'eau, prendre les plats, apporter le repas, changer les chandelles. » Il se cura le nez.
« Oui, le travail est fini. »
Il se dirigea vers la sortie. Je l'interpellai. « Lourd ?» Il s'arrêta et se tourna vers moi, les sourcils froncés. « Est-ce que les autres domestiques frappent encore Lourd pour lui prendre son argent ? Ou bien est-ce que ça va mieux ?» Il plissa le front.
« Les autres domestiques ?»
Il avait l'air vaguement inquiet.
« Oui, les autres domestiques. Tu disais, il frappe Lourd et prend ses pièces. Tu te rappelles ?»
J'avais tenté d'imiter son inflexion et ses gestes, mais au lieu de réveiller ses souvenirs, je ne réussis qu'à le faire reculer devant moi, affolé.
« Peu importe, » repris-je précipitamment.
Ma tentative pour lui signaler qu'il me devait peut-être un service n'avait fait que noircir encore son opinion sur moi. La lèvre inférieure protubérante, il s'écarta de moi.
« Lourd, n'oublie pas le plateau, » fit Imbre avec douceur.
Le domestique se renfrogna encore, mais revint prendre les plats où apparaissaient les reliefs du petit déjeuner d'Imbre, puis sortit rapidement de la salle, en crabe, comme s'il craignait que je ne l'attaque. Une fois que le casier à vin eut repris sa place, je m'assis dans mon fauteuil.
« Eh bien, » fis-je.
« En effet, eh bien, »
répondit-il d'un ton amène.
« Comptais-tu me mettre un jour au courant ?»«
Non. » Je me laissai aller contre mon dossier, puis, après réflexion, jugeai que le chapitre était clos. Je détournai la conversation. « Je vous ai dit que Devoir voulait discuter avec vous d'une affaire urgente. Il faut vous tenir à sa disposition. »«
Quelle affaire ?»
Je le regardai en face. Il vaut mieux que mon prince vous l'expose lui-même, je pense. Je me mordis la langue pour me retenir d'ajouter « Naturellement, vous pouvez toujours demander à Lourd de quoi il s'agit. »
« Dans ces conditions, je vais me rendre dans mes appartements sans trop tarder. Fitz, Horty court-elle des risques ?»«
Que voulez-vous que j'en sache ?» Il fit un effort visible pour se contenir.
« Tu sais très bien de quoi je parle. Elle artise, n'est-ce pas ? Sans personne pour guider ses pas. Elle a pourtant réussi à te dénicher, à moins que tu ne l'aies contacté le premier. »
Était-ce le cas ? Je l'ignorais. M'étais-je introduit dans ses rêves durant son enfance, comme j'avais partagé ceux de Devoir ? Avais-je, sans m'en rendre compte, coulé le socle du lien d'art qu'elle cherchait aujourd'hui à établir ? Je m'étais tu, plongé dans mes pensées, et Imbre prit mon silence pour de l'entêtement.
« Fitz, comment peux-tu réfléchir à si court terme ? Sous prétexte de la protéger, tu la mets en danger. C'est ici qu'Horty devrait se trouver, à Castelserre, où elle pourrait apprendre correctement à maîtriser son talent. »
« Et à servir les loin-voyants. » Il planta ses yeux dans les miens.
« Naturellement. Si la magie est le don de son sang, son service en est le devoir. L'un ne va pas sans l'autre. À moins que tu ne veuilles lui dénier cet héritage, parce que c'est une bâtarde, elle aussi. »
Une brusque bouffée de colère me suffoqua. Quand je pus à nouveau parler, je répondis à mi-voix. Je ne considère pas mon attitude comme un déni de ce qui lui revient. Je cherche à la défendre, c'est tout.
Ce point de vue provient uniquement de ton obstination à la maintenir loin de Castelserre, quel qu'en soit le prix. Quel terrible péril la menacerait-il si elle venait ? Celui d'introduire dans son existence la musique, la poésie, la danse et la beauté ? De faire peut-être la connaissance d'un jeune homme de noble lignée, de bien se marier et de vivre à l'aise ? De permettre à tes petits-enfants de grandir sous tes yeux ?
En présentant ainsi la situation, il paraissait parfaitement raisonnable et moi, totalement égoïste. Je soupirais. Imbre. Burick s'est déjà déclaré opposé à ce que sa fille se rende à Castelserre. Si vous insistez, ou pire, que vous tentiez de faire pression sur lui, il se doutera que ce n'est pas sans motif. En outre, comment voulez-vous révéler à Horty qu'elle possède l'art sans qu'elle demande aussitôt d'où elle tient ce don ? Elle sait que Molly est sa mère. La seule possibilité,
c'est son ascendance paternelle. On détecte parfois des enfants doués de l'art sans lien apparent avec la lignée des loin-voyants. Elle aurait pu hériter son talent de Molly, comme de Burick.
Oui, mais aucun de ses frères ne le partage, fis-je observer.
Exaspéré, Imbre frappa la table, les mains ouvertes.
« Je te l'ai déjà dit. Tu es trop prudent, Fitz. Mais s'il se passe ceci et s'il se passe cela, tu t'évertues à éviter à l'avance des problèmes qui ne se présenteront peut-être jamais. Imaginons qu'Orty se découvre la fille d'un loin-voyant. Serait-ce si terrible ?»
Si elle venait à la cour et apprenait qu'elle est non seulement une bâtarde, mais la fille d'un loin-voyant doué du vif, oui. Que deviendrait alors son bel époux et son avenir d'aristocrate? Comment ses frères, Molly et Burick, supporteraient-ils de se trouver face à ce passé soudain ressuscité? De plus, si Orty s'installait ici, vous ne pourriez pas empêcher Burick de venir s'assurer qu'elle va bien. J'ai changé, je le sais, mais ni mes cicatrices, ni mes années ne l'abuseraient. S'il me voyait, il me reconnaîtrait et il en serait anéanti, à moins que vous ne vouliez lui dissimuler des secrets, interdire à Orty d'annoncer à ses parents qu'elle apprend l'art, et surtout que son professeur est un homme balafré au nez cassé.
Non, Imbre. Mieux vaut qu'elle reste là où elle est, qu'elle épouse un jeune fermier, qu'elle aimera et jouisse d'une vie paisible.
Vision fort bucolique, fit Imbre avec ironie. Je ne doute pas que tes filles, si tu en avais d'autres, serait enchanté à la perspective d'une existence aussi calme et rassise. »
poursuivit-il d'une voix dégoulinante de sarcasme. Puis, d'un ton normal, il demanda.
« Et que fais-tu de son devoir envers le prince? De la nécessité de créer un clan ?»«
Je vous trouverai quelqu'un d'autre, » répondis-je, non sans témérité. « Quelqu'un d'aussi doué qu'elle, mais sans lien de parenté avec moi, qui n'amène pas de complications. »
J'ai le sentiment que de pareils candidats ne vont pas être faciles à dénicher.
Il fronça soudain les sourcils.
Ou bien en aurais-tu rencontré sans juger utile de m'en faire part?
Je remarquai qu'il ne se proposait pas comme aspirant, et je préférais ne pas réveiller le chat qui dormait.
Imbre, je vous en donne ma parole. Je ne vois aucun autre postulant à l'art, à part Lourd.
Ah, c'est donc lui que tu vas former.
Il avait posé la question d'un air dégagé, dans l'espoir de m'obliger à reconnaître qu'il n'existait pas d'autre candidat sérieux. Il s'attendait à un refus catégorique de ma part, je le savais. Lourd me détestait. Il avait peur de moi, et pour couronner le tout, il était simple d'esprit. J'aurais eu du mal à imaginer un élève que j'eusse moins envie de prendre en apprentissage, hormis Orty. Et une troisième personne, aussi, peut-être. Acculé, je finis par déclarer « Il n'est pas impossible qu'il existe un autre candidat. »«
Et tu ne m'en as rien dit ?»
Sa voix tremblait de rage à peine contenue. Je n'avais pas de certitude, et je n'en ai d'ailleurs toujours pas. C'est tout récemment que j'ai commencé à m'interroger sur lui, mais j'ai fait sa connaissance il y a des années. Et il est peut-être aussi dangereux de le former que Lourd, voire davantage, car non seulement il entretient des opinions très arrêtées, mais il a le vif.
Son nom !
C'était un ordre, non une question. J'inspirais profondément et me jetai dans le gouffre. Rolf le Noir. Imbre fronça les sourcils et, les yeux plissés, fouilla les greniers de sa mémoire.
L'homme qui t'a proposé de t'enseigner le vif ? Tu l'avais rencontré sur la route des montagnes, n'est-ce pas ?
Oui, c'est bien lui. Le vieil assassin était présent quand j'avais fait à Ketriken un compte-rendu douloureusement complet de mes pérégrinations dans les six duchés pour la retrouver. Je n'ai jamais vu personne se servir du vif comme lui. On aurait presque dit qu'il entendait nos conversations à œil de nuit et moi. Je n'ai jamais connu aucun autre vifier qui en soit capable. Certains sentaient nos échanges quand notre attention se relâchait, mais ils ne paraissaient pas en saisir le contenu. Rolf, si. Même lorsque nous nous efforcions de lui dissimuler nos contacts, j'ai toujours eu le sentiment qu'il en savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Peut-être employait-il le vif pour nous repérer et l'art pour capter nos pensées.
N'en aurais-tu pas eu connaissance ?
Je haussai les épaules. Je n'ai jamais rien perçu. Il est donc possible que je me trompe. Et franchement, je ne suis pas pressé de le revoir pour m'en assurer.
De toute façon, tu ne pourrais pas. Je suis navré, mais il est mort il y a 3 ans. La fièvre l'a pris et son agonie n'a pas été longue.
Je demeurai pétrifié, aussi abasourdi par la nouvelle que par le fait qu'Imbre l'a su. À tâtons, je trouvai un fauteuil et m'y assis. Ce que j'éprouvais était non du chagrin, car mes relations avec Rolf le Noir avaient toujours été difficiles, mais du regret. Il était mort. Comment Fragon supportait-elle son absence? Comment Hilda, son ours, avait-elle vécu sa disparition? Un long moment, je contemplais fixement le mur en voyant au loin une petite maison. « Comment l'avez-vous appris ? » demandai-je enfin, mon sang mal.
« Voyons, Fitz, tu avais parlé de lui à la reine, et je t'avais entendu prononcer son nom auparavant, quand l'infection de ta blessure au dos te jetait dans des accès de fièvre délirante. Je le savais important, et je garde toujours un œil sur les gens importants. »
Ces propos m'évoquèrent le jeu des cailloux. Il venait de poser un nouveau pion sur le damier, un pion qui révélait sa vieille stratégie. Je dis tout haut ce qu'il avait omis. « Vous savez donc que je suis retourné chez lui, et que j'ai étudié quelque temps auprès de lui. » Imbre eut un petit hochement de tête.
« Je n'en étais pas certain, mais je me doutais qu'il s'agissait de toi. Je m'en suis réjoui. Jusque-là, tout ce que je savais de toi, je le tenais de Kétriken et d'Astérie qui t'avaient laissé à la carrière. Alors, découvrir que tu étais sain et sauf. Pendant des mois, j'ai espéré à demi te voir apparaître à ma porte. J'attendais avec impatience de t'écouter décrire toi-même ce qui s'était passé après que Vérité le dragon avait quitté la carrière. Il restait tant de lacunes à combler. J'ai imaginé sans façon dont nos retrouvailles pourraient se dérouler. Naturellement, mes espoirs étaient vains, tu le sais, et j'ai fini par comprendre que tu ne reviendrais jamais parmi nous de ton propre chef. »
Il soupira, submergé par des souvenirs de peine et de désillusion, puis il ajouta dans un murmure, « Néanmoins, j'ai été heureux de te savoir vivant. » Il ne me faisait pas de reproches. Il avouait simplement avoir souffert. Mon choix l'avait attristé, mais il l'avait respecté. Après mon séjour chez Rolf, il avait dû lancer ses espions sur ma trace. Il ne savait sans doute pas qu'il recherchait Fitz Chevalerie Loinvoyant, mais il m'avait certainement retrouvé. Autrement, comment Astérie serait-elle arrivée chez moi bien des années plus tôt? Vous m'avez toujours surveillé, n'est-ce pas? Il baissa les yeux vers la table et déclara d'un ton buté,
« Un autre que toi pourrait y voir une main excessivement protectrice. Comme je te l'ai dit, Fitz, je garde toujours un œil sur les gens importants. »
Ses propos suivants semblèrent répondre à mes pensées.
« J'ai tâché de ne pas interférer dans ta vie, Fitz, de te laisser trouver un semblant de paix, même si elle me coupait de toi. »
10 ans auparavant, je n'aurais pas perçu la douleur dans sa voix. J'aurais seulement vu en lui un vieillard fouineur et calculateur. À présent que j'avais un fils acharné à ne tenir aucun compte de mes conseils, je pouvais concevoir ce qu'il avait dû lui en coûter, de me laisser agir à ma guise sans intervenir. Comme moi aujourd'hui devant Heure, il avait dû penser que je me trompais de route. Pourtant, il m'avait laissé l'emprunter. À cet instant, je pris ma décision, et je le déséquilibrai en déclarant. « Imbre, si vous le désirez, je puis tenter de... Voulez-vous que j'essaye de vous former à l'art ?» Son expression devint tout à coup impénétrable.
« Ah, voici que tu me le proposes maintenant. Intéressant. Mais je pense me débrouiller très bien en étudiant de mon côté. Non, Fitz, je ne désire pas que tu me formes. »
J'inclinai la tête. J'avais peut-être mérité son dédain. J'inspirais profondément. Alors je vais accéder à votre demande cette fois. Je prendrai l'ours comme apprenti. Je trouverai un moyen de le persuader de me laisser l'instruire. Vu sa puissance, il suffira peut-être à lui tout seul à constituer le clan dont Devoir a besoin. Imbre resta muet de saisissement. Puis il eut un sourire aigre.
« J'en doute, Fitz. Quant à toi, tu n'en doutes pas. Tu n'y crois pas du tout. Toutefois, nous en resterons là pour le moment, et tu commenceras la formation de lourd. En retour, je laisserai Horty tranquille. »
«
Tu as mes remerciements. À présent, je dois aller voir dans quel mauvais cas devoir s'est fourré. »
Il se leva avec raideur, comme si son dos et ses genoux le faisaient souffrir. Sans un mot, je le regardais sortir.